toutes et à tous. Vous écoutez bien Radio Orient, il est midi. Voici votre rendez-vous d'information avec François-Xavier de Calonne et Wallis Glaise. Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à 2 ans de guerre à Gaza continuent en Égypte. 2 ans après l'attaque du 7 octobre, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, appelle à se souvenir de tous ceux qui ont été tués et ont subi d'horribles violences. Le dossier du jour, une situation politique chaotique en France après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, du jamais vu sous la 5e République. Ce sont les mots d'Alain Quayrol, le politologue. Vous l'entendrez dans cette édition. Au Caire, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas se poursuivent en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Le ministre égyptien des Affaires étrangères parle de progrès significatifs, notamment sur une mécanique, je cite, sécuritaire, garantissant le retrait complet d'Israël de Gaza. De son côté, le président américain Donald Trump affirme que tout se déroule très bien, je cite, estimant que le Hamas a accepté des points essentiels. Israël commémore ce mardi les 2 ans de l'attaque du 7 octobre 2023. Menée par le Hamas, une date tragique qui avait coûté la vie à 1219 personnes et conduit à 251 enlèvements. 2 ans plus tard, la guerre à Gaza se poursuit avec un bilan humain dépassant 67 000 morts palestiniens, majoritaires civils et près de 2,5 millions de déplacés. Je vous le disais, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la fin immédiate des hostilités à Gaza. Israël est dans la région à la libération sans délai des otages détenus par le Hamas à l'occasion de la deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023. Je cite, je l'ai dit et redit, je le répète aujourd'hui avec une urgence encore plus grande, libérer les otages sans condition et immédiatement mettez fin aux souffrances de toutes et tous. Il s'agit d'une catastrophe humanitaire d'une ampleur incompréhensible. Fin de citation. Et sur le terrain, de nouvelles frappes israéliennes visent plusieurs zones de la bande de Gaza. Un tir de roquette depuis le nord a été intercepté sans faire de victimes. Le Vatican, de son côté, a dénoncé une tragédie humaine inacceptable. Au Yémen, l'ONU condamne avec force l'arrestation arbitraire de 9 employés par des rebelles houthis et qui ont également saisi des installations onusiennes. En Syrie, le calme est revenu aujourd'hui à Alep, où un cessez-le-feu a été proclamé dans la nuit entre les forces gouvernementales et les Kurdes, après des affrontements ayant fait 2 morts en métropole au nord de la Syrie, selon un média d'État et une ONG. Sur le front ukrainien, Moscou affirme avoir intercepté 210 drones ukrainiens pendant la nuit, tandis que 2 civils ont été tués à Belgorod. Je vous le disais également, la crise politique en France. Le président Emmanuel Macron a chargé Sébastien Lecornu d'entamer de nouvelles consultations pour sortir de la crise gouvernementale après sa démission surprise survenue à peine 14 heures après l'annonce de son cabinet. C'est la fin de ce point d'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour le dossier du jour. Le dossier du jour, la crise politique en France, un champ de ruines. C'est une image qui pourrait refléter la situation politique actuelle en France. Après la démission du Premier ministre, la crise politique s'enflamme désormais jusque dans le camp présidentiel. Emmanuel Macron, qui a demandé à Sébastien Lecornu de poursuivre d'ultimes négociations pour tenter de composer une coalition, se trouve plus isolé que jamais. François-Xavier de Calonne.
Oui, avec un sentiment dominant et les citoyens dans tout ça. Pendant que des responsables politiques effectuent des calculs pour se positionner en 2027 ou lors d'une hypothétique présidentielle anticipée, une large partie de la population se désole du spectacle qui nous est offert. Ces citoyens qui, pour certains, ont du mal à boucler leur fin de mois, aspirent à plus de pouvoir d'achat et attendent des actes concrets de la part de nos dirigeants. Mais bon, pour le moment, certains responsables politiques restent figés sur leur position ou appellent à la démission du président de la République. C'est le cas de l'ancien premier ministre Édouard Philippe. Le patron d'Horizon lui demande d'organiser une élection présidentielle anticipée après l'adoption d'un budget pour 2026. La veille, Gabriel Attal, qui a connu une ascension fulgurante depuis la première élection d'Emmanuel Macron jusqu'à l'obtention de Matignon, a sèchement pris ses distances. L'ancien Premier ministre a dit sur TF1 ne plus comprendre les décisions d'Emmanuel Macron. Leur relation s'était déjà fortement dégradée depuis la dissolution de juillet 2024, dissolution qui avait contraint Gabriel Attal à faire ses cartons de Matignon.
Et dans le même temps, les opposants continuent de dénoncer la situation politique inédite depuis la démission surprise lundi du gouvernement de Sébastien Lecornu, nommé 14 heures plus tôt.
Oui, c'est vrai. Alors d'abord, justement, ce parallèle. 14 heures, c'est par exemple moins long qu'un Paris-Sydney, Wallis. À peine débarqué, Sébastien Lecornu reste aux manettes avec une mission. Emmanuel Macron lui a demandé de poursuivre d'ultimes négociations pour tenter de composer une coalition. La réussite de la mission Lecornu reste très incertaine. En cas d'échec, le chef de l'État a ainsi laissé planer l'hypothèse d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il prendrait ses responsabilités avec un risque majeur, retrouver une configuration quasi similaire sans majorité et donc avec l'impossibilité de faire voter des lois et donc de gouverner la France. Alors vous l'avez dit à Wallis, les opposants continuent de dénoncer la situation politique inédite. Le Rassemblement National trace seulement deux chemins possibles. La dissolution absolument incontournable selon sa chef de file Marine Le Pen et la démission d'Emmanuel Macron. Et autour de force de ressouder le socle commun s'ajoute le cas de la censure toujours brandie par la gauche et le Rassemblement National. Quant au mouvement de Jean-Luc Mélenchon qui plaide pour une solution claire, nette, franche et massive, eh bien il continuera de demander la démission d'Emmanuel Macron. LFI qui brandit l'arme de la motion de destitution, sa recevabilité doit être examinée demain devant le bureau de l'Assemblée Nationale. Le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, a lui demandé un changement de cap avec l'arrivée d'un gouvernement de gauche à Matignon. Mais aujourd'hui, malgré les différentes requêtes des responsables politiques, la priorité réside dans la capacité de voter un budget pour 2026 et de préserver les intérêts économiques et sociaux des citoyens en France. Mais pour cela, il faudrait une classe politique capable de surmonter ces divisions pour l'intérêt commun. C'est en substance ce que souligne la presse internationale, exemple Bloomberg, qui estime que de nombreux responsables politiques sont davantage intéressés par leur propre préparation aux élections de 2027.
Merci François-Xavier de Calonne. Une situation politique jugée chaotique en France, donc après cette démission de Sébastien Lecornu, du jamais vu sous la Ve République. Décryptage avec Alain Quirol, politologue.
Roland. On n'avait jamais vu ça. Un Premier ministre constituant laborieusement un gouvernement plus de 3 semaines après avoir été nommé et qui tombe, dont le gouvernement tombe, implose, vraiment au bout de quelques heures, parce que le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence M. Bruno Retailleau, démissionne parce qu'il est mécontent, fait-il savoir, de la composition du gouvernement, et donc de l'arrivée d'un ancien ministre de la Macronie. Et on ne comprend pas très bien pourquoi, en vérité...
Bruno Le Maire, hein, en l'occurrence, l'ancien ministre de l'économie qui était nommé aux armées.
Bruno Le Maire, vous avez raison de le préciser. La véritable raison semble être que la base des Républicains, les militants, les électeurs, faisaient depuis plusieurs semaines une grosse pression pour que la comédie cesse et que M. Retailleau cesse d'aller fréquenter la Macronie. Il y avait une très vive pression pour qu'il s'en aille. Il devait partir pour montrer qu'il était sensible au désir de ses électeurs, et il a choisi ce prétexte pour partir, et nous vivons cette crise, parce que c'est une âme exceptionnelle qu'un ministre de premier plan, de tout premier plan, décide de faire imploser un gouvernement au moment même où il vient d'être composé.
Et on l'entend à travers votre propos, les ambitions politiques de certains ministres, là vous évoquez Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, participent à renforcer cette crise inédite que nous vivons aujourd'hui.
Oui, bien sûr, c'est la bataille pour l'État. c'est plus la bataille pour les places, c'est la bataille pour la place, la fonction de président de la République. Depuis que nous avons cette élection présidentielle au suffrage universel, c'est devenu un petit peu le point de souffrance et de maladie de cette République. Les animateurs du débat politique se voient tous président de la République et donc d'abord candidat présidentiel. Et c'est un peu ce qui les fait vivre. Ils se disputent entre eux la possibilité d'ouvrir ce chemin vers la présidentielle. Ils en sont pratiquement tous atteints.
Dans votre ouvrage, Roland Cayrol, Alerte mondiale, démocratie en danger, il me semble que vous écriviez que c'était parfois le peuple qui pouvait conduire à fragiliser la démocratie à travers leur vote. Et là, on a un exemple différent avec un ministre qui lui-même fragilise l'institution.
Oui, c'est vrai, parce que la base électorale de M. Le Cornu n'existe pas. Il était un inconnu de cette République. Au ministre des Armées, dont personne ne parlait depuis plus de 7 ans, à peine arrivé aux affaires à Matignon et à peine déjà disparu. Là, on est devant quelque chose qui échappe totalement au poids des électeurs, du peuple, de l'opinion publique. C'est un petit jeu, une comédie, un ballet politique qui se passe uniquement parmi les élites de la République.
Ça, les citoyens ne le supportent plus aujourd'hui.
Ils en ont marre et ils s'en détournent. Ils sont lassés, beaucoup plus qu'en colère, comme certains le disent. Non, il n'y a pas de véritable colère dans ce pays, mais il y a une espèce de grogne sourde, une espèce de sentiment de café du commerce dans lequel on dit rien ne va plus, ils sont tous nuls. Voilà, c'est plutôt ce type d'éloignement de la politique, le côté un peu hargneux, moqueur, qui emporte, je crois, dans l'état d'esprit des Français.
À l'analyse de Roland Cayrol, politologue. Merci beaucoup d'avoir suivi ce bulletin d'information. Merci à Raymond pour les réalisations. C'était donc cette édition présentée par François-Xavier de Gallonne et Wallis Glaise. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.